Dans notre explication du catéchisme du Concile de Trente, nous en sommes rendus au sixième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Et dimanche dernier, le début de ce commandement vous a été expliqué. Il vous a été dit que ce commandement concernait non seulement l'adultère au sens strict, mais toute forme d'impureté pour l'interdire. Et en même temps, sous ce commandement, était recommandée la vertu de pureté. Les commandements de Dieu ne se contentent pas d'interdire des choses, surtout ils nous recommandent des vertus. Et c'est la vertu de pureté qui est ainsi recommandée. Mais dimanche dernier, faute de temps, il n'a pas été parlé des remèdes contre l'impureté. Donc il nous reste à voir cette partie dans le catéchisme du Concile de Trente. Le commentaire de cet article se termine par l'explication d'un certain nombre de remèdes qui sont proposés pour lutter efficacement contre l'impureté. Ces remèdes sont de deux sortes. Les uns sont du domaine de la pensée et les autres regardent l'action. Voyons d'abord les remèdes qui relèvent de la pensée. Ils consistent principalement en ce que nous comprenions bien tout ce qu'il y a de honteux, de pernicieux dans l'impureté, afin de détester ce péché. Donc le catéchisme veut d'abord bien nous convaincre de la gravité de ce péché pour que nous fassions tout ce qu'il faut pour l'éviter. Et pour expliquer cela, le catéchisme insiste sur deux considérations, deux motifs. D'abord, la malice intrinsèque de ce péché, et puis ensuite les conséquences, et notamment l'ignominie qui résulte de ce péché. Alors voyons d'abord la malice intrinsèque de ce péché. Vous savez que le péché d'impureté est un péché grave en lui-même, comme disent les théologiens. Ça veut dire que toute impureté est toujours grave, de par sa matière. C'est une matière grave en elle-même, parce qu'elle touche le domaine du don de la vie. Et Dieu s'est réservé ce domaine. C'est lui qui est le maître du don de la vie. Donc quand on triche avec ces choses-là, de quelque manière que ce soit, même en pensée, en recherchant des délectations coupables, eh bien il y a forcément quelque chose qui porte atteinte à ce que Dieu s'est réservé. Donc c'est toujours grave. Alors on se comprend quand on dit que la matière est grave, cela ne veut pas dire forcément que le péché qui en résulte est toujours grave. Vous savez que pour que le péché soit grave, que ce soit un péché mortel, comme on dit, il ne suffit pas que la matière soit grave. Il faut encore qu'il y ait pleine advertance et plein consentement. L'advertance, ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait, on a bien conscience. Et puis le consentement, ça veut dire qu'on le veut. Alors, il ne faut pas trop néanmoins calculer, évidemment. Il faut avoir une conscience délicate, bien droite. Ce qu'il faut, c'est éviter tout péché d'impureté. Comme ça, la conscience reste bien satisfaite, on va bien, n'est pas troublée. Cette gravité est manifestée tout particulièrement par la rigueur des châtiments que l'Ancien Testament réservait à ceux qui commettaient cette faute. Quand on lit la loi de Moïse, on se rend compte que la loi du peuple élu était très sévère contre les péchés d'impureté, notamment contre l'adultère. L'adultère était puni de la lapidation. D'ailleurs, on le voit dans l'Évangile, les pharisiens amènent à notre Seigneur une femme qui a été surprise en adultère, et ils disent à notre Seigneur que cette femme mérite la lapidation. Et il demande à notre Seigneur ce qu'il en pense. Vous connaissez l'épisode. Et de même, la loi juive, la loi de Moïse, poursuivait de mort tous ceux qui commettaient le péché d'impureté contre nature. C'est important de le rappeler aujourd'hui, où cette question est de plus en plus banalisée. La loi elle-même se met petit à petit à autoriser ces choses qui sont vraiment abominables et qui, dans l'Ancien Testament, étaient punies très sévèrement. Très, très sévèrement. Dieu lui-même, vous le savez, a puni Onan pour le crime qu'il a commis, qui est le crime de ce qu'on appelle désormais la contraception. Dieu l'a puni de mort. Là encore, vous voyez que l'Ancien Testament nous donne, par tous ces exemples, une bonne idée de la gravité de ces péchés. Sodome et Gomorre ont été rayés de la carte, purement et simplement, par la colère de Dieu à cause des péchés qui s'y commettaient. On peut dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une civilisation qui ressemble fort à ce qui se passait à Sodome et Gomorre. Donc il ne faut pas que nous nous moquions de Dieu. Et saint Paul, dans toutes ses épîtres, dans les parties morales de ses épîtres, insiste lui aussi souvent sur la nécessité, on vient de l'entendre d'ailleurs dans l'épître aux Romains aujourd'hui, insiste souvent sur la nécessité où se trouvent les chrétiens de lutter contre ces impuretés, contre ce péché d'impureté. Dans l'Apocalypse aussi, il y a des phrases qui sont très significatives. L'Apocalypse maudit tous ceux qui s'adonnent à ces fautes-là, notamment cette petite phrase qu'on trouve à la fin du livre de l'Apocalypse. « Dehors les renégats, les dépravés, les meurtriers, les impurs, les idolâtres, tous ces hommes de mensonges, leur sort sera l'étang de feu et de soufre. » Vous voyez, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous disent expressément toute la gravité de ce péché. La grandeur des châtiments nous montre que c'est un péché qu'il ne faut pas minimiser. Cette sévérité s'explique aussi parce que ce péché a un caractère exemplaire, si l'on peut dire. C'est une faute qui est contagieuse, qui revêt un caractère social. On le voit bien aujourd'hui. L'impureté, quand elle règne dans une civilisation, dans une société, quand l'exemple de l'impureté est donné, et surtout quand il est donné par les élites, c'est une catastrophe. Le péché devient banalisé. L'exemple délétère de notre société moderne est là pour nous le prouver. Les publicités, les tenues modestes, la littérature, les films, tout cela nous montre une banalisation de toutes ces fautes d'impureté qui entraînent beaucoup d'âmes en enfer. Vous savez que les petits-enfants de Fatima ont vu l'enfer. La Sainte Vierge n'a pas hésité à le leur montrer. Ils voyaient les âmes qui tombaient en enfer comme neige en plein hiver, dans les tempêtes de neige, ou comme les feuilles au moment de l'automne, quand le vent souffle. Et l'explication qu'on donne ordinairement de cette scène, c'est que beaucoup de ces âmes qui tombent en enfer à cause des péchés d'impureté. Sans doute, ce n'est pas le péché le plus grave, c'est vrai. Il y a des péchés plus graves que le péché d'impureté. Mais il reste que c'est un des péchés les plus répandus, et donc les plus dévastateurs, par le nombre d'âmes qu'il fait tomber. Surtout dans une époque comme la nôtre, où l'impureté règne partout, et donc où elle a des effets profondément dévastateur. Donc soyons bien en garde, vous voyez, que toutes ces considérations nous rappellent le danger, la gravité du libertinage, du concubinage, et puis a fortiori des péchés contre nature. Mais la raison la plus profonde de la gravité de ce péché, le motif le plus important, c'est celui que nous donne saint Paul. Saint Paul explique que celui qui se rend coupable de ce péché pèche contre son propre corps. Or, le corps est l'instrument par lequel Dieu passe pour donner la grâce aux âmes. Voici ce que dit saint Paul. « Fuyez l'impudicité. Tous les autres péchés se commettent hors de nous. Mais celui qui s'abandonne à l'impudicité pèche contre lui-même. » Voici ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens. C'est-à-dire que celui qui pèche ainsi se fait injure en profanant sa propre sainteté. La sainteté reçue au baptême, la grâce qui habite dans l'âme, qui se trouve dans l'âme, est comme profanée. Il y a une profanation qui, par le corps, souille l'âme. Et c'est ça qui est la raison profonde pour laquelle ce péché est si indigne. Saint Paul dit encore, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Jésus-Christ ? Peut-on transformer des membres de Jésus-Christ en instruments de péché ? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui pêche avec une femme de mauvaise vie se réduit au plus honteux esclavage ? » Et on pourrait dire que dans l'exemple ainsi donné par saint Paul, tous les péchés d'impureté sont inclus, sont compris. Le chrétien est le temple du Saint-Esprit, c'est encore une expression de saint Paul. Et donc par l'impureté, il viole ce temple, il en chasse l'Esprit de Dieu qui l'habite, il profane ce temple. Et il porte atteinte donc au caractère sacré, au caractère divin de son état de baptisé. C'est ça la raison la plus profonde. Et c'est celle-là qui doit d'abord et avant tout être retenue. C'est cela qui doit nous empêcher de commettre ces péchés. Ce sont des considérations qui sont très profondes. Il faut les méditer. En ce qui concerne l'adultère, le catéchisme du Concile de Trente ajoute qu'au péché d'impureté lui-même s'ajoute une injustice. Et cela aussi est à prendre en considération. Et c'est une injustice très grande. Car vous le savez, le contrat de mariage qui unit deux époux, hein, puisque l'adultère c'est une violation dans le domaine de la pureté, de l'union conjugale. Donc le contrat de mariage qui unit deux époux entraîne qu'ils ne sont plus seuls maîtres d'eux-mêmes. Ils ne s'appartiennent plus. Et donc par conséquent, celui qui viole la fidélité conjugale lèse le droit de son conjoint. Donc il commet une injustice très grave. Donc à la faute d'impureté s'ajoute une faute d'injustice. Et ça aussi c'est à prendre en considération. Et alors cela nous amène justement aux conséquences. Et les conséquences peuvent aussi nous montrer la gravité de ce péché. Et la première conséquence que souligne le catéchisme du Concile de Trente, c'est même celle dont il parle essentiellement, c'est l'infamie. L'infamie, c'est-à-dire le fait de rendre sa personne, sa réputation, de détruire sa réputation, sa propre réputation. Hein, si dans le feu de la passion, le pécheur oublie toutes les raisons que nous venons de donner et ne craint pas de se faire le compagnon ou l'esclave du diable, au moins doit-il se souvenir que l'adultère ou l'impureté en général provoque de grands maux et attire sur lui l'infamie. Celui qui se rend coupable de ses péchés devient tôt ou tard infâme, d'une manière même souvent publique, parce que généralement ses fautes ne restent pas indéfiniment cachées. Alors c'est la ruine des ménages, la destruction des réputations, la perte de la confiance des proches, un exemple lamentable donné autour de soi, et parfois aussi des ruines matérielles ou la destruction de la santé. Tous ces maux déplorables sont la suite logique de ce péché. Et cela aussi nous fait bien réfléchir à la gravité de ce péché. Le livre des Proverbes, un livre de l'Ancien Testament, le dit expressément. « Celui qui est adultère perdra son âme par la folie de son cœur. Il amassera sur sa tête l'opprobre et la honte de son infamie ne s'effacera jamais. » La honte de son infamie ne s'effacera jamais. Le catéchisme souligne une dernière conséquence qui mérite aussi d'être bien méditée, c'est l'aveuglement du cœur et de l'esprit. L'impureté amène l'aveuglement de l'esprit. L'impudique, en ne craignant pas de se ravaler au rang des bêtes par son péché, finit par devenir lui-même comme une bête. Le discernement se perd. Le caractère raisonnable de l'être humain, quand l'être humain finit par vivre comme une bête, ce caractère raisonnable se perd peu à peu. Et celui qui s'adonne d'une manière habituelle à ses fautes finit par perdre, oublier tout, le sens de Dieu, sa réputation, le sens, sa dignité, ses enfants, tout est oublié. Il déchoit et devient souvent incapable de prendre quelque responsabilité que ce soit, et même parfois, hélas, devient lui-même pervers. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament qui aussi, là, peuvent nous faire réfléchir. L'exemple de Salomon, notamment. Vous savez, le roi Salomon, ce grand roi à qui Dieu avait donné la sagesse, il est réputé pour sa sagesse. Il a écrit des livres magnifiques qu'on lit encore dans l'Ancien Testament. Eh bien, ce roi s'est livré tout entier à ses honteuses passions et il a fini par abandonner la vraie religion pour adorer les faux dieux de ses innombrables concubines. Alors il est devenu comme une bête. Et c'est une des raisons pour lesquelles, après Salomon, le peuple d'Israël a connu le schisme, la division du royaume en deux. Comme le dit le prophète Osée, le péché d'impureté emporte le cœur de l'homme et le rend aveugle. Et l'aveuglement du cœur et de l'esprit. Alors voilà pour les remèdes qui concernent la pensée. Vous voyez, il faut méditer toutes ces choses, il faut y réfléchir avant, pour éviter de tomber ensuite dans tous ces maux. Venons-en aux remèdes qui regardent l'action. Que faire pour éviter de tomber dans le péché d'impureté? Et dans ce domaine, le catéchisme, plutôt que d'employer le mot « agir » ou « entreprendre », qu'on attendrait, logiquement, puisqu'il s'agit de l'action, utilise les termes « fuir » et « éviter ». Et c'est très bien vu. S'agissant d'impureté, le remède consiste à fuir. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est plein de psychologie. parce que face à ces tentations, les forces de l'homme sont déficientes, sont impuissantes. Il faut être persuadé de cela, il faut le savoir. Et donc la meilleure parade, c'est la fuite, et bien sûr le recours à Dieu Tout-Puissant. Mais il ne faut surtout pas présumer de ses forces et se croire capable par soi-même, par nos forces humaines, de faire face à ces péchés d'impureté qui généralement ont une puissance, d'attirance, de domination qui emporte complètement l'homme. La première chose à éviter, dit le catéchisme du Concile de Trente, c'est l'oisiveté. Vous connaissez l'adage, on dit de l'oisiveté qu'elle est la mère de tous les vices. C'est un point qui est très important. Il y a un lien entre l'oisiveté et la paresse en général et l'impureté. C'est un lien très évident. L'oisiveté est souvent la cause, ou du moins l'occasion des péchés d'impureté. Et à ce sujet, permettez-moi une petite application que n'a pas prévue le catéchisme du Concile de Trente, évidemment. C'est le danger d'Internet et de l'ordinateur. Beaucoup de gens, quand ils ne savent pas trop quoi faire, qu'ils ont du temps, qu'ils s'ennuient, ils vont sur Internet. Et puis on tapote le clavier, on surfe, comme on dit, et puis on regarde un peu n'importe quoi. Et on perd son temps, et souvent on tombe sur des choses qui sont tout à fait mauvaises. Donc il y a un grand danger, un grand danger. On pourrait dire la même chose de la télévision, on pourrait dire la même chose de beaucoup de magazines modernes, ces magazines qu'on feuillette, qu'on regarde uniquement pour les photos souvent, qui sont tout à fait inutiles, peu profonds, très superficiels et souvent dégoûtants. Laissez pas traîner ces choses chez vous, ne les ayez pas, c'est beaucoup mieux, les regardez pas. Même les catalogues de mode, beaucoup d'entre vous ont des enfants. Pensez que les enfants, ils peuvent très bien, dans le dos de la maman ou du papa, regarder ces catalogues. Et puis ils tombent sur des choses qui les surprennent, qui les troublent, et ensuite ce trouble reste. Donc Internet, cet appareil demande beaucoup de vertus. Or, hélas, c'est généralement les gens qui ont le moins de vertus qui l'utilisent le plus. Donc il faut avoir des règles bien précises. Déjà, évitez autant que possible, s'il n'y a pas de nécessité, de l'avoir chez vous. Ça suffit bien de l'avoir au travail. Mais quand il n'y a pas de nécessité impérieuse, le mieux c'est de ne pas l'avoir chez soi. Comme ça, il n'y a pas de danger. Et si vous l'avez néanmoins chez vous, parce qu'il y a une vraie nécessité, gardez-le dans un lieu public. Surtout pas dans un petit lieu retiré de la maison, dans le grenier ou dans une chambre, où on va avoir la tentation d'aller regarder en secret. Et souvent, quand on n'a pas la conscience tranquille et qu'on veut par curiosité regarder des choses malsaines, ça facilite. Donc le lieu public, c'est très important. Et puis il faut se discipliner, donc ne regarder que quand vraiment il y a une nécessité. On a un horaire de train à chercher ou des choses de cette nature. Et puis éviter de regarder le soir. Par exemple, à partir de l'heure du dîner, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'aller garder cet appareil. Ça ne sert à rien. On remettra au lendemain s'il y a vraiment des nécessités. Et si on est bien discipliné de cette manière et qu'on a une vie vraiment chrétienne, il n'y a pas de danger. Du moins, le danger est largement écarté. Mais c'est important. Si vous confessiez, vous comprendriez ce que je dis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de péchés aujourd'hui sont commis à cause d'Internet. Il faut être persuadé de cela. Ensuite, le catéchisme insiste sur l'importance d'éviter l'intempérance. Bon, on le devine, on le comprend. L'intempérance dans le boire et dans le manger sont souvent cause d'impureté. L'ivresse conduit à la luxure. Bon, passons, on ne peut pas tout dire. Surtout, le catéchisme insiste sur la lutte contre les occasions prochaines de péché. Et ces occasions prochaines, elles viennent surtout par le regard. Donc il faut discipliner nos regards. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Par les yeux, on peut voir beaucoup de belles choses, on peut voir aussi beaucoup de choses laides. Et ce qu'on voit reste. C'est pour ça qu'il faut absolument discipliner nos regards, c'est très important. Notre Seigneur dit dans l'Évangile, « Si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. » C'est à prendre au sens figuré, évidemment, mais ça veut dire justement qu'il faut régler nos regards, qu'il faut mortifier notre regard. Mortifier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre à mort. Il faut s'interdire de regarder certaines choses. De même, Job, « J'ai fait un pacte avec mes yeux pour éviter toute pensée dangereuse. » C'est une question de psychologie humaine. Le bon Dieu qui nous a dotés de facultés merveilleuses nous a donné une imagination. L'imagination, c'est une faculté qui est extraordinaire. C'est une caméra. qui enregistre et qui restitue. Aucune caméra humaine n'arrivera à la perfection de notre imagination. L'objectif, ce sont nos yeux. Et il y a dans l'imagination beaucoup de parts infravolontaires. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention, eh bien, ça enregistre. Ça enregistre. Et puis ensuite, ces images qui sont rentrées, qu'on n'a pas surveillées, qu'on a laissées rentrer, notre imagination va les restituer. Généralement, elle va nous les restituer au moment où on est le plus faible, où on ne s'y attend pas, où on n'est pas sur ses gardes. Et si on a laissé nos yeux regarder des choses malsaines, évidemment, toutes ces images malsaines qui vont nous être restituées au moment où nous ne serons pas sur nos gardes vont être autant d'occasions ou de causes de chute. C'est pour ça qu'il faut porter ses yeux sur de belles choses. Et à partir de ce moment-là, l'imagination sert à ce pourquoi le bon Dieu l'a faite, c'est-à-dire elle sert à notre bien. Donc c'est un outil à double tranchant. Il faut être très vigilant là-dessus, surtout dans le monde actuel qui est un monde très délétère. Petite précision, et puis j'arrêterai là-dessus. Si pour éviter l'impureté, il faut éviter de porter ses regards sur des choses provocantes, images, spectacles ou personnes qui se tiennent mal, qui ont des tenues plus ou moins indécentes, il y en a beaucoup aujourd'hui dans les rues, cela implique évidemment qu'il ne faut pas soi-même offrir une image provocatrice pour autrui. C'est du bon sens. Alors là, ça s'adresse peut-être plus spécialement aux femmes ou aux jeunes filles, encore que beaucoup d'hommes sont coupables parce qu'ils ne disent rien, par exemple des maris ou des pères de famille ne disent rien ou n'osent pas dire à leur épouse ou à leur fille que telle ou telle tenue n'est pas décente, n'est pas convenable. Mais c'est vrai que la femme, si elle n'y veille pas, ou la jeune fille, si elle n'y veille pas, peut attirer sur elle le regard d'une manière qui est malsaine. Vous avez à la sortie un petit texte qui vous est proposé sur un tabouret. Il est court, c'est un petit recto verso, en demi-format. C'est un texte du père Calmel. En quelques mots, il va vraiment à l'essentiel. Il dit les choses d'une manière très belle, très profonde, en plaçant les choses à leur vrai niveau. Et il explique qu'aujourd'hui, il y a une perte du sens de la pureté chez beaucoup de jeunes filles ou de dames. On ne sent plus cela, parce qu'on est victime du monde délétère dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a une banalisation incroyable qui fait que la femme honnête, aujourd'hui, souvent sans même trop s'en rendre compte, elle en a peut-être plus ou moins consciente, mais elle n'y fait pas bien attention, parce que tout le monde le fait, cette femme honnête s'habille ou s'exhibe comme s'habillaient jadis les femmes déshonnêtes. Donc vous voyez la dégringolade. Mais comme la nature humaine n'a pas changé, eh bien si de fait ces tenues sont plus ou moins indécentes ou provocatrices, même si l'intention n'est pas mauvaise, l'effet reste le même. Il faut s'interdire toute tenue immodeste, c'est très important. Pensez aux péchés que les autres vont commettre à cause de nous. Dieu nous en demandera compte de cela, c'est donc très important. Et dès lors qu'on a le sentiment, même un petit peu confus, qu'il y a quelque chose qui n'est pas convenable, mieux vaut pas le faire. Et comme ça, la conscience reste bien, bien en paix. Aujourd'hui, il n'y a pas simplement les vêtements qui déshabillent. C'est une manière un peu paradoxale de dire les choses. Il y a aussi des vêtements dont la fonction propre, si l'on peut dire, est de déshabiller la femme en faisant ressortir sa nudité. Et ça, c'est le pire. C'est terrible, ça. Toutes ces jupettes trop courtes, ces vêtements fendus, moulants, trop suggestif, enfin, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Il faut vraiment bannir ça de nos familles catholiques, c'est très important. Là encore, si vous alliez dans un confessionnal, vous comprendriez ce que je dis. Alors, on pourrait encore, pour terminer, parler des paroles déshonnêtes, des discours, des chansons, des musiques. Les musiques aujourd'hui, combien de musiques lascives, lancinantes, suggestives, qui font un mal fou? Pas directement, indirectement, mais ça reste. Faute de temps, on ne peut pas dire tout ça. Terminons simplement en évoquant les moyens les plus puissants. Ce sont les moyens surnaturels. Nous sommes chrétiens. Par notre baptême, nous avons reçu la grâce du bon Dieu. C'est la confession et la communion fréquente qui nous gardera dans la pureté. C'est une très belle vertu, très aimée du bon Dieu et de la Sainte Vierge. Mais c'est une vertu fragile. Nous gardons des trésors dans des vases d'argile. C'est saint Paul qui le dit. Donc il faut se confesser et communier souvent. Et puis prier. La chasteté est un don de Dieu. Ça se demande. Ce n'est pas par nos forces que nous pourrons l'obtenir. Il faut la demander. Et pour la garder, il faut se mortifier. Le jeûne, l'esprit de sacrifice, est un moyen très efficace pour garder la pureté. L'esprit de sacrifice s'oppose à l'esprit de jouissance. faut savoir de quel monde nous voulons être. Est-ce que nous sommes vraiment chrétiens ou est-ce qu'au contraire, nous voulons être selon l'esprit du monde? Et puis enfin, ça sera mon dernier mot, il faut être résolu. Une âme résolue est prête à faire des efforts. Souvent, dans ce domaine-là, on tombe parce que nous sommes mous. On ne résiste pas vraiment. On ne lutte pas. On se laisse aller. Et puis on tombe parce que la nature humaine est faible. Alors soyons bien résolus. Et pour l'aide, il faut le demander à la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception. S'il est quelqu'un qui aime cette vertu, qui la chérit tout spécialement et qui la veut pour ses enfants, c'est bien la Sainte Vierge. Donc dans la mesure où nous nous sentons tous bien déficients, bien faibles, bien impuissants, il faut demander à la Sainte Vierge qu'elle nous préserve, qu'elle nous garde, notamment en s'accrochant à son chapelet. C'est un très bon moyen de garder et d'acquérir la pureté. Demandons ça à Notre-Dame, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi